Vous êtes sur RTL.
Sous le vélo. 7h, 9h.
RTL Matin.
I'm really rich. I'll show you that in a second. I'm very rich. I don't need anybody's money. It's nice. Very rich. So the total is 8,737,540,000. I'm really rich.
Bonjour Jean-Claude Beaujeau, vous êtes avocat, spécialiste de la politique américaine. Merci de nous rejoindre sur RTL. Merci. On vient d'entendre Donald Trump, J-4. Hein. Le compte à rebours est lancé pour l'ancien président américain. Il a jusqu'à lundi pour trouver 454 millions de dollars, 420 millions d'euros en gros. C'est le montant de l'amende pour fraude financière qu'il doit à la justice new-yorkaise. Une somme qui augmente chaque jour de 87 500 dollars jusqu'à son remboursement. Jean-Claude Beaujeau, la fortune de Trump est-elle vraiment en danger ?
Écoutez, il a une fortune estimée par Forbes en 2024 de 2,6 milliards de dollars, mais vous venez de passer un son dans lequel il disait qu'il avait 8 milliards de dollars. Il ne me semble pas qu'il ait perdu autant. Quoi qu'il en soit, sa fortune n'est pas en danger, mais le vrai sujet, sera-t-il en mesure de payer les 460 millions de dollars d'ici à lundi ? Vous avez entendu le procureur de New York dire, l'attorney général dire, si je n'ai pas mon argent, c'est une expression qui est très américaine, si je n'ai pas mon argent d'ici à lundi, nous irons chercher l'argent là où il est. En d'autres termes, on va exécuter le jugement.
Et ça se traduit par quoi pour celui qui envisage de redevenir président des États-Unis ?
Eh bien, ça peut se traduire d'une part par le fait que ses biens vont être saisis. Alors, attention, c'est pas dès lundi, il va pas devoir déménager, mais il y a des procédures.
Et on saisit une propriété, on saisit va directement sur le
alors,
compte bancaire.
Alors, Mar-a-Lago, ça peut être les comptes bancaires. Mar-a-Lago vaut à peu près 220 millions, 240 millions de dollars. Vous savez, sa très grande propriété de Floride, l'une des propriétés de Floride, il y a aussi les golfs, il y a aussi les actifs, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être gelées dans l'immédiat, saisies, et puis après, éventuellement, il y a des procédures qui peuvent emmener à la vente des biens. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, ça veut dire qu'il ne pourra pas disposer des biens en question. Et puis, il y a l'immeuble du le 40 Street, à New York, la Trump Tower à saisir. Une petite précision quand même, n'oublions pas que Trump, c'est avant tout une marque. Il n'est pas certain qu'il soit propriétaire de tous les biens que l'on connaisse. Il y a des montages juridiques. Il n'est pas non plus idiot. Il y a certainement des montages qui vont éviter qu'il soit complètement dépouillé.
Est-ce que c'est un château de cartes qui peut s'effondrer dans les circonstances actuelles ?
Alors, ma réponse est non sur le plan financier, parce que là encore, il a quand même 2,5 milliards de dollars.
Donc,
vous savez, ce sont la valeur de ses actifs, etc. à son patrimoine. Donc, il ne risque pas de s'écrouler. La deuxième chose pour mener la campagne, je rappelle que pour une présidentielle américaine, on est loin du compte en France. Pour la présidentielle américaine, c'est à peu près 1 milliard de dollars. Donc, et il a des fonds qui vont arriver. Donc, ça ne risque pas. Il a des donneurs, des bailleurs de fonds. S'il est dans une dynamique de victoire, et il est parfois un tout petit peu en avance sur certains États par rapport à Biden, il aura les avoirs nécessaires pour pouvoir, enfin, les fonds nécessaires pour pouvoir faire sa campagne.
Donc, son avenir politique n'est pas, au moment où nous parlons, menacé réellement. On n'envisage pas qu'il ne puisse pas faire la campagne, on n'envisage pas qu'il ne puisse pas, d'une façon ou d'une autre, trouver l'argent.
Sur le plan financier, non. Sur le plan campagne financière, non.
Est-ce que ça a une implication dans l'opinion publique ? Est-ce que ça peut jouer contre lui à l'élection présidentielle ?
Écoutez, je pense que l'électorat de Donald Trump est un électorat extrêmement motivé, extrêmement pugnace. Oui. Et pour lui, finalement, tout cela repose sur quoi ? Repose sur deux choses. Premièrement, et le président ne cesse de le dire, il dit, je reprends sa phrase, la guerre juridique est en réalité une interférence politique. En d'autres termes, c'est un montage tout cela. Il ne répond pas sur le fond, il ne répond pas sur le fait d'avoir augmenté la valeur de ses actifs pour se faire prêter ou garantir un certain nombre de fonds. Il ne répond pas sur le fond. Il dit, tout cela, c'est finalement une guerre politique que l'on me mène et c'est une guerre contre l'Amérique. Je ne dis pas que c'est ce que je suis en train de dire, mais c'est lui, c'est son argument.
Donc ça nourrit son image de rebelle.
Ça nourrit son image, ça galvanise son électorat. Mais attention, ça pour l'instant, nous sommes dans les primaires et nous sommes dans les premiers sondages. Attention, le 5 novembre, il devra aller chercher aussi des électeurs centristes, malgré tout, qui sont des gens un petit peu moins actifs, plus raisonnables et qui peuvent être gênés par ce côté va-t-en-guerre de Donald Trump. En tout cas, je romps avec tout le système. Cette rupture peut gêner un certain nombre d'électeurs centristes.
Je passe de l'autre côté. Pourquoi Joe Biden peine-t-il à ce point à rassemblés? C'est à cause de son âge, finalement?
Non, je ne pense pas que ce soit. Alors, c'est aussi une question d'âge, mais Joe Biden est en début de campagne. Vous avez vu qu'il a, depuis le discours de l'Union, il a changé en quelque sorte de cap. Il n'est plus sur les résultats économiques et sociaux, il est sur les valeurs, il est sur l'avortement, sur la démocratie en danger, sur des sujets qui tiennent à l'Amérique à son électorat. Il est en train de rassembler l'électorat démocrate. Nous sommes très loin encore du 5 novembre. Nous ne sommes qu'à la mi-mars. Donc il reste encore du chemin. J'ai le sentiment qu'il part beaucoup plus lentement. C'est vrai que dans le camp démocrate, et un certain nombre d'anciens conseillers d'Obama disaient « Attention, on est en danger ». Dans le camp démocrate, on recommence à se mobiliser.
Alors, je vais vous poser une question bien française. Faut-il avoir peur pour la démocratie américaine si Donald Trump est effectivement élu en novembre?
Je ne le pense pas, parce que les institutions sont assez fortes. Il y a une Cour suprême, elle a beau être conservatrice, mais il y a une Cour suprême, il y a des juges, il y a des instances. Et vous savez, finalement, quand vous regardez la Constitution américaine, deux choses. Finalement, le président américain a moins de pouvoir que le président français. Il est obligé de composer en permanence avec le Congrès. Et à ce sujet, le 5 novembre, il va se jouer non seulement l'élection présidentielle, mais aussi l'élection d'un certain nombre de membres du Congrès. La majorité est très faible d'un côté comme de l'autre. Donc Donald Trump devra s'assurer d'avoir un Sénat majoritaire. Et je rajoute une chose, si vous me permettez, c'est que ces candidats, les candidats de Make America Great Again, MAGA, donc les candidats trumpistes les plus fervents, ont du mal à se faire élire dans leur circonscription, pour faire court. Donc attention à ce qu'il ne soit pas président sans une majorité au Sénat, ce qui lui compliquerait la tâche.
Une toute dernière question, vous qui connaissez si bien ce pays, finalement sur quel thème va se jouer la présidentielle américaine selon vous?
Sur les valeurs. Vous avez vu que les démocrates, les démocrates sont assez attachés à la question, par exemple, la relation israélo-palestinienne. Elle est attachée à la liberté, donc ça va se jouer sur ces thèmes-là. Est-ce que Donald Trump peut être une menace pour la démocratie américaine, pour les libertés publiques? Ça va être cela qui va être pendant toute la campagne, la crainte de Donald Trump et le retour d'un certain nombre d'extrêmes.
Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour, vous êtes spécialiste de la politique américaine. Très bonne journée à vous.
Merci.